Il est 18h sur RTVFM, l'heure de passer en mode sport avec votre émission Bienvenue au Club, animée par Alain et Laetitia.
Bienvenue au Club, mes amis, sur RTV, on s'épanouit. La musique bat dans nos veines, ensemble on partage la scène. RTVFM, c'est notre maison, avec vous on fait sensation. Bienvenue ici, c'est le fun, c'est parti pour l'évasion.
Eh bien, quel bonheur, mais quel bonheur et plein de frissons de vous retrouver là sur RTVFM ce soir dès 18h pour la première, et oui, j'ai bien dit la première, de Bienvenue au Club sur RTVFM. Donc ce sera avec Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Et puis nous allons avoir trois tiers temps dans notre émission, puisque nous allons recevoir le Handball Club de Carpentras, puis nous recevrons Pernod Lidart, qui est un sport de fléchette, et enfin le badminton de Pernes-les-Fontaines. Alors écoutez, on prend la balle au bon, hein, hop, directement. Salutations donc au président du club de handball, c'est le
HBCC.
Le HBCC. Donc José Bernal, bonjour, bonjour José.
Bonsoir.
Et vous êtes accompagné de votre entraîneur de l'équipe première, Baptiste Ferdinand.
Oui,
bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Voilà, allez, hop, c'est parti. On a pris la balle au bon, on est sur le parquet. On dit un parquet ?
Oui.
Voilà, écoutez, j'ai pas commencé par une première bêtise, donc tout va bien.
Alors, on dit handball. Vous pouvez nous apporter des précisions sur l'histoire de votre sport ?
Oui, bien sûr, c'est un sport qui a été inventé en Allemagne et l'objectif premier était de créer un entraînement complet pour les différents athlètes. Quand je parle d'athlètes, je parle des sauteurs, des coureurs. Voilà, c'est un sport qui réunit toutes ces qualités-là. Donc, au début, ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour faire un vrai entraînement à tous les athlètes du monde.
Oui, tu as probablement une deuxième question, Tia, j'en suis absolument sûr.
Alors, à quel âge on peut commencer le hand?
Écoutez, tout âge, hein,
3 ans.
Ouais, à partir de 3 ans, on accueille, nous, dans notre catégorie, en tout cas baby hand, des jeunes, ouais, à partir de 3 ans.
Et vous avez également des catégories seniors, on peut jouer jusqu'à quel âge au handball?
Alors, on a plusieurs catégories. La première, donc, c'est le baby hand, de 3 à 6 ans. Ensuite, vous avez de 6 ans à 9 ans pour la catégorie moins de 9. Et puis ensuite, vous avez les moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 17.
Donc on dit des U, hein, c'est ça?
Oui,
les U17. Voilà, compris. Le U, ouais. Veut dire quoi, le U?
Under. En dessous.
Ah, d'accord. Donc on est dans un anglicisme. Là, okay.
C'est ça, c'est sur deux années en fait. Ça,
d'accord,
ça
under.
Ça recoupe deux années. Ouais.
Ok, j'aurais pu y penser quand même.
Et moi, j'aime bien la culture française et on dit les moins. Moi, je dis des moins.
D'accord, moins 17, ok.
Voilà, et qu'est-ce qu'on a encore des catégories loisirs? Qu'est-ce que j'oublie?
C'est quoi les catégories loisirs par rapport à...
Alors, ce sont des seniors qui viennent pour le plaisir. Se faire plaisir entre copains, des anciens handballeurs. Voilà. Pour passer un bon moment. Et il y a surtout une troisième mi-temps qui est très agréable.
Et pour répondre à votre question, du coup, dans la catégorie loisirs, on a des personnes de plus de 50 ans qui jouent. Donc, en fait, de 3 ans à 50 ans, largement, okay. on peut jouer au hand. Ouais.
Donc, ce sont des moments où le gymnase leur est ouvert.
Oui,
exactement.
Et il n'y a pas de compétition le week-end. Hein.
Alors, ils ont quand même quelques matchs, alors entre guillemets amicaux, parce que ça reste du loisir quand même. Mais c'est des matchs qui sont prévus en semaine, justement, parce que c'est des personnes qui veulent garder leur week-end pour pouvoir avoir d'autres activités ou partir en vacances. Oui. On sait très bien que quand on est joueur en compétition, on est quand même pas mal pris le week-end pour les
c'est
matchs.
C'est très très prenant, oui, c'est clair. Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune pour le motiver, pour lui donner envie de pratiquer le hand?
C'est un sport déjà qui dégage de belles valeurs, de combativité, de solidarité bien sûr. C'est un sport collectif dans lequel on peut prendre énormément de plaisir. Il y a plein d'aspects différents et plein de qualités différentes à développer, de motricité, de force, d'endurance aussi. Et je pense que c'est un sport qui est très complet et qui est en tout cas connu pour son exercice aussi cardio, qui est super important je pense pour nos jeunes. Ouais.
Un sport qui se joue à l'intérieur aussi.
Oui.
Ça peut motiver aussi, non? Non, mais c'est sérieusement, c'est une bêtise que je dis ou...
C'est vrai que l'hiver, on préfère être à l'intérieur.
On est bien d'accord.
Vous avez une équipe féminine et une équipe masculine?
Non.
Alors, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ce choix?
Volontairement, si vous voulez, depuis donc une trentaine d'années, on s'est... alors, au départ, si vous voulez, du club, il y avait féminine et masculine. Et puis, le club, pour X raisons que je ne peux expliquer aujourd'hui, mais il serait trop long, il a éclaté complètement. Et donc l'équipe qui est arrivée par la suite, on a décidé de ne faire que du masculin, parce qu'il est très difficile, et d'autant plus aujourd'hui, de pouvoir concilier masculin et féminin dans notre environnement. Faut trop d'argent, quoi, tout simplement.
Ah oui, d'accord.
Tout
simplement. C'est pour une question de gestion du club.
Exactement, okay. Simplement.
Et de créneaux disponibles aussi sur les gymnases.
Ah oui, effectivement.
Une catégorie prend un créneau.
Oui, mais alors excusez-moi, mais je vais faire le Patrick Juvy de service, hein, mais où sont les femmes?
Alors, les femmes sont sur trois clubs, deux clubs plutôt. Mazan,
d'accord,
qui eux ne font que du féminin. Et d'ailleurs, avec eux, nous avons un accord sur lequel, sur les petites catégories, on accueille les féminines et le masculin. Et à partir du moins de 13, on leur envoie les filles et eux nous renvoient les garçons.
D'accord. Ah, voilà. D'accord. Ok, donc vous avez une entente.
C'est un partenariat qu'on a depuis très nombreuses années.
Et alors, ce club est à Carpentras depuis combien de temps?
Alors, le club, les statuts ont été déposés le 20 octobre 1965 et est paru au journal officiel le 29 octobre 1965. Donc, cela fait 60 ans.
Ah oui, donc alors vous fêtez vos 60 ans cette année, vous les avez fêtés déjà?
Non.
Donc vous allez avoir une spéciale 60 ans? Qu'est-ce
oui, tout à fait, c'est une fête qui se prépare, qu'on a commencé depuis le mois de juillet.
C'est un petit scoop ou tout le monde le sait déjà? C'est un scoop sur l'antenne quand même.
Oui, tout à fait.
Quand même.
Tout à fait. voilà, on y travaille, on a le lieu, on a déjà avancé sur pas mal de points. On en parlera peut-être après, puisque vous voulez que je vous fasse un événement phare.
Oui, voilà. Alors, on parlera.
Il sera certainement d'actualité.
Effectivement. Donc, on reparlera de l'événement phare. Mmh. Ensuite, je me tournerai vers l'entraîneur de façon à ce qu'on parle de façon plus spécifique de vos équipes et puis de vos championnats, Coupe de France. Comment ça se passe? Hein,
oui, voilà. Bien sûr. Là, on a un championnat régulier à 12 équipes. Donc, on joue chaque week-end, régulièrement chaque week-end pour ce championnat-là. Et en plus, on est engagé en Coupe de France régionale, dont d'ailleurs, on joue ce week-end en Coupe de France à Montélimar.
On parle de tout ça juste après une pause musicale et vous allez nous régaler.
Bien sûr.
Vous écoutez RTBFM à Château-Renard et à Saint-Rémy-de-Provence en DAB+.
On va s'entourer jusque là. La 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 pause est terminée, retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Bah évidemment, on va pas traîner comme ça dans les vestiaires sans arrêt, hein. Donc toujours sur RTV FM bien entendu avec Laetitia qui m'accompagne, Jean-Pierre à la technique et puis en face de moi José Bernal, le président du handball club de Carpentras et l'entraîneur de l'équipe première, hein, Baptiste Ferdinand. José Bernal, je vous garde pour la fin de façon à nous annoncer votre scoop pour les 60 ans de votre club. Et ben c'est parti avec Baptiste Ferdinand, donc entraîneur d'une équipe senior. Alors c'est quoi, c'est beaucoup d'entraînement, non?
Alors, beaucoup, on est sur trois entraînements semaine, ouais.
Ah oui, quand
trois
même.
Entraînements semaine, donc lundi, mercredi, vendredi, et un match le week-end en général. Donc en général, on se voit quatre fois dans la semaine, ouais. On a des créneaux d'entraînement entre 1h30 et 2h. Voilà, après répartis sur l'ensemble de la semaine, toute l'année.
Alors vous avez donc trois équipes seniors, hein. On va parler des équipes seniors, sachant oui. qu'il y a aussi des équipes de jeunes dont on a parlé tout à l'heure.
Bien sûr.
Donc les équipes seniors, alors moi je suis un peu footeux plutôt, hein, donc je connais Ligue 1, Ligue 2, Nationale, etc. Comment ça se passe pour le handball ?
Alors oui, on a trois équipes en seniors, on a une équipe dite équipe 3 qui joue au premier niveau, donc au niveau de département, donc dans le Vaucluse, hein, vraiment assez proche de nous. On a une seconde équipe qui joue en honneur région. Donc sur le premier niveau régional de la région.
C'est une région PACA ou vous allez un peu en Occitanie ou
c'est... Alors c'est uniquement PACA et la région en fait est divisée en deux parties, c'est-à-dire qu'on a une partie Provence-Alpes et une partie Côte d'Azur. Comme pour la pré-nationale d'ailleurs qui est l'équipe 1, qui est le plus haut niveau régional, il y a deux poules de pré-nationale en gros dans notre région à nous. Il y en a une sur la partie Provence-Alpes avec Marseille, Gap, voilà, et notre département à nous, le Vaucluse. Et de l'autre côté, on a la partie Côte d'Azur aussi. Donc nous, on joue dans le championnat pour l'équipe 1, en tout cas, le championnat pré-national, côté plutôt, je ne vais pas dire de bêtises, mais ouest.
D'accord. Donc pré-national, donc, vous êtes quoi, à un niveau du national ?
C'est ça. Quand... Au-dessus, il y a la nationale 3. Ouais,
ah d'accord. Donc après, donc, il y a l'élite ?
Oui, l'idée, c'est qu'il y a deux poules de professionnels, donc D1, D2.
Ouais.
Et ensuite, on a la nationale 1, nationale 2, nationale 3. Et donc, on serait, nous, le sixième niveau.
Ah oui, d'accord. Ah voilà. Ouais, d'accord.
C'est le meilleur niveau régional, juste avant en fait l'entrée au niveau national en National 3. Ouais.
Et donc c'est votre objectif cette année, c'est donc de monter, c'est de vous maintenir. Dites-nous un peu. Alors... Est-ce que vous avez le droit de révéler ces choses-là?
Bien sûr, on peut en parler.
Attention, on est écouté. Hein.
Bien sûr, je me doute. Oui, alors on peut en discuter. C'est l'objectif qu'on fixe en début de saison. Pour notre part, moi, ça fait 3 ans que j'ai cette équipe-là. C'est la troisième année, et donc on est parti sur une base de travail il y a 2 ans qui était plutôt bonne avec des joueurs de qualité. On a essayé de progresser tout au fil de la saison. On avait un objectif la saison dernière qui était de finir dans les 3 premiers de la poule, qui a été rempli, hein, vu qu'on finit 3e, avec une super saison où on bat le premier même sur les derniers matchs. Donc voilà, on a une vraie capacité à développer notre jeu et à progresser. Et sur cette saison-là, oui, on espère en tout cas gagner le championnat, avec le moins de défaites possible du coup. Mais on espère gagner le championnat, la première place, d'où la possibilité de monter. Oui.
Et ce n'est que le premier qui monte.
Exactement.
Ah oui, d'accord.
À notre niveau, il n'y a que le premier.
Pas souper. Où vous en êtes? Comment ça se passe?
Pour l'instant, on a fait 4 matchs, 2 à l'extérieur, 2 à domicile. On est sur 4 sur 4 pour l'instant. Donc on a tout gagné, on n'a rien perdu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est aussi engagé en Coupe de France régionale.
Alors oui, alors il y a également une Coupe de France, donc où alors tous les clubs de France y participent.
Alors nous, on est dans la Coupe de France régionale, donc c'est-à-dire tous les clubs au niveau régional. Donc souvent il y a 3 voire 4 niveaux par région. Tous les clubs au niveau régional la jouent. Donc en fait ça part comme un entonnoir, hein, comme une coupe, et au fur et à mesure on se rapproche finalement. L'année dernière on a réussi à accéder au 16e de finale, qui était une première aussi pour le club.
Alors quand vous dites 16e de finale, c'est 16e de finale régionale ?
Oui.
D'accord.
Oui, régional.
Okay.
En fait, dans le handball, ils ont divisé les différentes Coupes de France. C'est-à-dire que nous, on n'arrivera jamais à jouer contre des équipes du niveau national. C'est qu'on sera champion de la Coupe de France, mais régional.
Ah d'accord, ils ont fait une Coupe de France régionale. Et il existe aussi une Coupe de France nationale ?
Bien sûr, nationale, okay, fédérale et nationale aussi.
D'accord, ok.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est une bonne idée ça, je trouve, parce que il doit y avoir des écarts importants quand même, hein, déjà au niveau des finances, etc.
Oui, clairement, il y a des gros écarts au niveau financier bien sûr, au niveau aussi des physiques finalement, hein, des joueurs et du niveau de jeu forcément. Donc ils ont fait ce choix-là pour essayer de donner un petit peu plus d'attractivité, je pense, à cette compétition-là, où il y a quelques clubs qui la jouaient finalement pas parce qu'ils avaient aucune chance d'aller plus haut, parce qu'on rencontrait des équipes bien plus fortes que nous. Et je pense que pour relancer un petit peu la concurrence là-dedans et faire en sorte que toutes les équipes jouent cette compétition, ils ont préféré dissocier national, régional.
Et votre championnat se termine quand ?
Oh, il va se terminer fin mai, début juin.
Fin mai, début juin. En général. Vous n'oublierez pas de nous contacter, hein, entre-temps, pour nous donner vos résultats.
J'espère
pour,
qu'il y aura des bonnes nouvelles.
Qu'on puisse vous suivre. Voilà, et ce serait super de pouvoir fêter la montée comme ça sur RTVFM. Quoi,
c'est gentil.
En votre compagnie, ce serait top. Et les équipes réserves, comment ça se passe?
Alors, ça se passe plutôt bien aussi. L'équipe réserve est sur 2 victoires, 2 défaites. Au niveau honneur régional aussi. On a essayé de fixer des objectifs assez élevés, en tout cas sur un top 3. Et donc, on essaye finalement de faire évoluer nos joueurs et d'avoir la possibilité d'avoir un petit peu cet échange entre l'équipe première et l'équipe réserve pour que des joueurs qui jouent un petit peu moins en équipe première puissent quand même prendre beaucoup de temps de jeu sur l'équipe réserve, pourquoi pas pour revenir par la suite.
Ils s'entraînent ensemble?
Non, on a des créneaux séparés.
Ah, vous avez des créneaux séparés?
Ouais. Moi, mon groupe, en tout cas sur l'équipe première, est composé de 20 joueurs. Donc, au-delà, on va dire que...
Attendez, on joue à 7. Hein.
C'est ça. Oui. On joue à 7 et 14 places.
Et pour l'équipe, vous avez 20 joueurs?
Ouais, 14 places sur la feuille de match, en fait.
Ah, d'accord.
Ça a été un choix qu'on a fait, c'est assez large, mais ça a été un choix qu'on a fait d'avoir plus de joueurs parce que, en fonction des blessures, des maladies de chacun, on peut avoir quelques manques et j'ai préféré prendre un groupe un peu élargi.
Et vous avez, vous doublez les postes, quoi. Vous avez deux gardiens, vous avez.
Exactement.
Et le second gardien, il arrive à jouer quand même.
Bien sûr.
Il a un peu du temps.
Alors, l'avantage, je sais que vous jouez au foot, mais l'avantage au handball, c'est qu'on peut faire des changements illimités.
C'est vrai.
C'est-à-dire que c'est pas vraiment réglementé, donc en fait, oui,
c'est
clairement.
Vrai, vous avez bien fait de me reprendre.
Je sais que vous aviez ces bases-là, donc je préférais vous le dire.
C'est très bien.
Mais oui, on peut faire des changements illimités. Donc les gardiens comme les joueurs peuvent sortir et rentrer sur le terrain indéfiniment.
D'accord. Bon, mais super. Bah, écoutez, franchement, je vous souhaite vraiment une énorme réussite.
C'est gentil.
Et voilà, je vous répète notre invitation. N'hésitez pas à nous tenir au courant de vos résultats.
Bah, je reviendrai avec plaisir.
José Bernal, donc le président, j'attends votre scoop. Alors, donc on va fêter les 60 ans du Handball Club de Carbonel.
On va fêter les 60 ans, donc le 25 avril. C'est défini.
Hop, on a la date.
On a la date, on a le lieu.
Ce
sera la salle Le Cabaret.
Ah oui.
Voilà. Et puis je vous en dirai pas plus.
Non, vous êtes en pleine préparation, je pense.
Non, on est en pleine préparation.
Ça va
donc effectivement, ça va être quelque chose de très très important pour le club. Et on veut vraiment que ce soit la fête.
À 60 ans, c'est pareil.
Et ça sera la fête.
Bien sûr. Ah, ouais. Ah,
bien
super.
Sûr. Ça sera vraiment la fête.
Ah, trop bien.
Et on a, voilà, pour le moment, tout n'est pas défini, donc...
Si en plus vous êtes prêt à monter et qu'il y a la fête, ça va être la méga fête.
Ouais. Bien sûr,
ça
bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Super. Oui.
C'est quelque chose que je pense qu'on va bien réussir.
Normalement, la fête, on sait faire ça.
voilà, exactement. on sait faire ça. Donc, voilà. Ben, écoutez, on se reverra.
Ah ben ça sera alors vraiment ça sera avec plaisir.
Avec plaisir.
Les studios sont ouverts, n'hésitez pas.
Également.
À venir, franchement, ce sera
bien sûr.
Ce sera toujours avec plaisir.
Bien sûr.
Ben José Bernal et Baptiste Ferdinand, donc ben merci beaucoup.
Hein, merci à vous.
Président et entraîneur du Handball Club de Carpentras. Mmh. On va vous quitter, on se fait une petite pause musicale et puis on va découvrir Pernod Lidarts juste après vous.
Merci.
À tout de suite.
RTVFM, une radio, une identité, un territoire.
C'est ok, c'est la risée. Je grandis l'amour.
La pause est terminée. Retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Et oui, soyez vraiment les bienvenus au club. Vous êtes toujours sur RTV FM. Et bien, toujours en compagnie de Laetitia. Tout va bien, Laetitia ?
Oui.
Super. Ben, écoutez, on va découvrir sur notre antenne une association sportive qui s'appelle Pernod Lidart. C'est ben, en face de moi. J'ai Sébastien Guignon, le président.
Bonsoir.
Ainsi que Baptiste Perron, qui lui est, ben, est licencié.
C'est ça.
Voilà. Enfin, licencié du club.
Hein, donc, licencié du club,
en fléchette. Bref,
voilà. Okay. Je joue.
Ok. Eh bien, écoutez, on va découvrir tout ça, ben, les fléchettes. Voilà, j'avoue que pour moi, alors je vais être un peu provocateur, hein, pour moi, c'est un jeu que je fais dans mon salon de temps en temps, mais je pense que vous allez
te rhabiller.
Nous dire beaucoup de choses.
Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas non plus. Quelles sont les règles quand on fait une partie de fléchettes? Comment ça se déroule une partie?
Alors, les fléchettes, il y a plusieurs formules de jeu en loisir. Donc, il y a ce qui s'appelle le cricket, il y a des formules de jeu le capital. Et après, il y a une version un peu plus compétitive, version officielle, qui s'appelle le 501 double out. C'est-à-dire que vous partez de 501 points, c'est le premier qui arrive à zéro en terminant par un double. Le double, c'est les cercles extérieurs, donc pour ceux qui ont un peu regardé à la télévision, donc c'est la formule de jeu officielle qu'on retrouve en compétition. Et après, effectivement, en soirée, on peut faire, même nous aux entraînements, on fait plein de formules de jeu différentes. Il y a un nombre incalculable de formules de jeu possibles et imaginables.
Et comment vous avez découvert ce sport? Parce que c'est pas commun, on le voit pas tous les jours. Comment vous l'avez découvert?
Moi, ouais, c'est un sport fédérateur, hein, un peu comme la pétanque. Hein. C'est voilà, c'est autour d'un barbecue, d'un apéritif. Voilà, c'est parti comme ça. Le jeu de précision, en ce qui me concerne, c'est parti comme ça.
Voilà, c'est parce que c'était un jeu de précision que vous avez eu envie de continuer dans cette. C'est ce qui vous a attiré dans ce sport?
Ou... Alors j'aimais ça déjà. Je jouais une fois par an. Et en fait, la vraie histoire, c'est qu'un soir, j'ai fini chez un ami. Il m'a dit, tu joues aux fléchettes? J'ai dit oui. On s'est mis à jouer. On est assez compétition tous les deux. Et on a fini à 7h du matin parce qu'il n'arrêtait pas de me dérouiller. Et moi, ça m'énervait. Du coup, j'ai dit, bah, je vais m'entraîner pour l'année prochaine. Et en fait, en m'entraînant, j'ai commencé à découvrir que c'était un sport, entre guillemets, à part entière, qui avait des vraies compétitions. Ma femme, elle croyait que je regardais des matchs de foot au début. Je dis, mais non, regarde, il existe quelque chose autour de la fléchette. C'est autre chose qu'un jeu de comptoir.
En plus, il y a des ambiances extraordinaires. Enfin, j'ai pu le voir, comme tout le monde a pu le voir sur la chaîne L'Équipe. Hein, ils en transmettent un petit
c'est
peu.
Ça.
C'est hallucinant, l'ambiance qu'il y a.
Ouais, dans les compétitions officielles, il y a déjà, quand vous regardez le public, il y a très peu de personnes qui sont habillées normalement. Absolument tout le monde vient déguisé. Donc vous pouvez voir de tout et n'importe quoi en termes de déguisement. Et puis pas mal de pichets de bière aussi sur les tables. Donc forcément, comme disait Sébastien, c'est très fédérateur. Que ce soit quand on joue, quand on le regarde, il y a très souvent une bonne ambiance.
Et est-ce que vous connaissez l'origine de ce sport?
Alors l'origine précise, non, pas vraiment. Je sais simplement que ça vient... Ça a démarré au début du 20e. Et que c'est originaire des pubs anglais. C'est un sport de pub à la base. Et c'est principalement autour des pays britanniques, Irlande, tout ça.
J'aime bien l'image du sport du pub, parce qu'il y a aussi le lever de...
C'est ça, on fait travailler les deux bras. Le bras gauche avec la pinte et le bras droit avec les fléchettes.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Et Pernod Lidart, ce club Pernod Lidart, il marche comment? Ça marche comment, ce club?
Ouais, si je veux jouer aux fléchettes, je fais comment?
Eh ben c'est tout simple, vous venez nous voir, donc on s'entraîne dans une salle, on a une salle partagée avec un club de vélo, le Vélocio, qui nous met à disposition les locaux de la ville de la mairie quand même. Et vous venez jouer, il y a une adhésion, après vous n'êtes pas obligé de prendre la licence.
Ah voilà, c'est ça. Alors c'est quoi la différence entre l'adhésion et la licence?
L'adhésion, c'est pour venir jouer, pour venir s'entraîner. Ouais. Après, la licence, c'est si vraiment vous voulez faire des compétitions et marquer des points. Parce que sans licence, vous pouvez très bien faire des compétitions, ce qui s'appelle des open. Donc comme son nom l'indique, c'est ouvert, open. Donc même en tant que non licencié, vous pouvez faire tous les open, même l'open national. Vous pouvez très bien le faire. Sauf que si vous marquez des points, vous en bénéficierez pas parce que vous n'êtes pas licencié.
C'est-à-dire que, alors, je commence avec un capital de zéro. À chaque fois que je vais faire un open, je vais gagner des points en fonction de ma réussite.
Voilà, ça dépend.
Ou pas.
Ça dépend de votre niveau de jeu, votre
réussite. Est-ce qu'on peut avoir des points négatifs?
Non.
Ah, vous me rassurez. Donc on marque des points, puis alors on franchit des niveaux. C'est ça, niveau départemental.
Ces points-là, ils vont être qualificatifs pour des compétitions ultérieures. Donc on va avoir des compétitions à l'année, 4 ou 5 gros open de ligne qu'on appelle. Et donc on va marquer des points comme disait Sébastien, et il y a un seuil, je crois que c'est 32 premiers joueurs individuels qui vont être qualifiés pour les masters régionaux. Donc là ce sera que les 32 meilleurs joueurs de la ligue, et parmi ces 32 joueurs il y en a 8 qui vont se qualifier pour les masters nationaux.
Ok, on reprendra ça après la pause, mais avant cette pause, je voulais quand même qu'on revienne sur les règles précises. C'est 501 points, on part avec 501 points, 521
On part de 501. Donc vous visualisez la cible, il y a plusieurs segments. Il y a des numéros tout autour de la cible. Tout en haut, par exemple, droit à la verticale, vous avez le 20. C'est là où on va se concentrer le plus souvent, parce que c'est le plus gros nombre. Et vous avez un cercle intérieur, qui lui est le triple. Donc si le segment qui rapporte le plus de points va être le triple 20, c'est 60.
Voilà. Donc, et là, donc avec 60 3, d'un coup, que
avec
je retranche.
Avec trois fléchettes, le score maximal qu'on puisse faire pour scorer, c'est 180. C'est le score parfait.
Ah ouais.
Et donc le but c'est de redescendre. Donc la première phase de jeu ça va être de faire descendre son score petit à petit. Donc volée après volée, une volée c'est un tour de trois fléchettes. Et quand on arrive proche de zéro, on est dans la phase de finish, la phase où on va chercher plus à se placer sur un double précis, parce que le cercle extérieur lui il est double.
Il faut finir pile poil
par un double.
Ah, et par un double en plus.
Voilà. Par un double,
donc,
et pile poil à zéro.
Il ne peut pas me rester qu'un point.
Non, si vous faites un, en fait, vous repartez du score que vous aviez juste avant.
C'est comme si vous faites moins de zéro. Un, ce n'est pas possible, puisqu'il faut finir par un pair, par un
double. D'accord.
Et le double le plus élevé, c'est le 50, c'est la bulle, c'est le centre de la cible. Et ensuite, vous avez le 40, c'est le double 20, etc.
Vous devez être balèze en calcul mental. Ça fait partie des entraînements.
Ça fait travailler. C'est un des éléments du jeu qui est primordial quand on cherche à justement passer un cap.
Les nouveaux qui arrivent au club et qui ont une envie de jouer en compétition, c'est le premier travail qu'on fait faire, c'est d'abord compter,
savoir compter. Mais c'est vrai, ouais.
Et parce que ça vous aide à mieux jouer en fait. C'est des espèces de schémas qu'on connaît par cœur après.
Alors, donc c'est un peu comme aux échecs. Alors il va y avoir un schéma de jeu. Et on sait que si on a tant de points au bout de temps de lancer, il faut plutôt s'organiser.
Exactement.
Il y a
plein de chemins. Et vous parlez de calcul, mais à partir d'un certain temps, on ne calcule plus. C'est plus des chemins qu'on visualise dans notre tête. Par exemple, on sait, à partir d'un certain niveau, par exemple, quand on se retrouve à 265, je ne vais pas l'attaquer au 20, je vais l'attaquer au 19. Parce que si je fais un 100, je me place à 165. 165, mathématiquement, je ne peux pas le finir. Alors que si je l'avais fait le même score, un triple de simple au 19, j'aurais fait 95 et je me serais placé à 170 que lui, je peux finir. Enfin, c'est plein de petits aspects comme ça.
Finir en trois fléchettes.
C'est ça.
Ce qu'il dit, finir en trois fléchettes. Voilà. 170, c'est le premier score qu'on peut finir en trois fléchettes.
Alors, est-ce qu'on est obligé de finir avec les trois fléchettes, ou alors si j'ai fini au bout de deux, j'ai fait mon double et je m'arrête?
Ça
qu'importe.
Pardon ?
Ça qu'importe si vous finissez avec une fléchette, deux fléchettes.
Ah d'accord, je ne suis pas obligé de lancer mes trois.
Par contre, à chaque fois, c'est une volée, donc une volée, c'est trois fléchettes.
Voilà, sauf la dernière plus, qui peut être que de une si j'ai besoin que d'une.
C'est ça.
Exactement.
Il y a certains scores qu'on ne peut pas faire en deux ou une fléchette. Par exemple, au-dessus de 110, on est obligé d'avoir besoin des trois fléchettes pour pouvoir finir.
D'accord. On se retrouve après une pause musicale et on va voir un petit peu les compétitions, comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite.
Toute la musique que j'aime,
toute la musique que j'aime
sur RTVFM.
La pause est terminée. Retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Alors là, ben, nous allons retourner, mais dans un gymnase, hein, toujours en compagnie ben, de Laetitia. Pour l'émission Bienvenue au Club, c'est la première de la saison. Hein. Attention, là, vous avez un scoop. Jean-Pierre à la technique, encore merci. Et puis, Sébastien Gognon et Baptiste Perron, eh bien, vous êtes président et licencié de l'association Pernolid Arts, donc les fléchettes à Pernes-les-Fontaines. On a parlé du calcul rapide à avoir pour pouvoir préparer des combinaisons.
C'est ça.
J'aimerais qu'on parle un petit peu du geste à avoir. Comment on apprend à viser le 20 ou à viser le 3, quoi. Alors, parce que ça s'apprend.
Ça s'apprend, évidemment. Déjà, souvent, quand on commence, on essaie un peu de copier les gestes les plus connus des meilleurs joueurs du monde. Mais on a tendance à dire quand même qu'aux fléchettes, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour avoir un bon geste. Il y a certaines bases qui sont quand même favorables pour avoir un geste fluide. On a tendance à dire que si on joue avec le bras droit, on met plutôt le pied droit en avant. On le met soit on peut le mettre de face perpendiculaire à ce qu'on appelle le pas de tir. Il y en a qui le mettent complètement parallèle, collé. Pareil, il n'y a pas de recette miracle. Le plus important, c'est d'être confortable dans son geste, dans sa position, et ensuite d'avoir seulement le coude qui bouge, c'est-à-dire fixer l'épaule et de moins bouger possible pour avoir un geste répétable et fluide.
Ok. Donc alors, vos joueurs qui ont donc et la connaissance de toutes les tables de multiplication, c'est un truc de fou ça, et puis un geste précis, donc ils vont faire des compétitions, ils vont faire des open, c'est ça? Ils prennent des points?
Alors c'est des
ça,
systèmes
ça se joue
de...
seul, ça se joue en équipe.
C'est des systèmes de classement, donc comme expliquait Baptiste à l'heure, cumulatif. Donc il y a plusieurs niveaux, niveau comité, ce qui représente niveau départemental, on
D'accord.
va dire.
Donc
niveau...
on a un comité de fléchettes.
Comité méridional qui appartient à la Ligue Sud-Est de fléchettes.
Voilà,
donc
d'accord.
Dans la Ligue Sud-Est de fléchettes, il y a quatre comités: Vallée du Rhône, Auvergne et Alpes.
Ah oui.
Donc nous, au niveau du comité, du coup, on fait des open ou des coupes de comité. On fait des open ou des coupes de ligue aussi. Donc là, on marque des points en ligue, on marque des points en comité. Et après, comme on l'a dit, ces points cumulatifs permettent aussi de se classer pour les masters nationaux.
Mais il y a c'est le club qui prend des points ou c'est le
il y a les joueurs. Alors
il y a un tireur.
Il y a c'est le joueur. Le joueur.
Donc il y a un joueur hein, pour les fléchettes.
En fait, il y a trois formats de jeu principaux dans les tournois. Il y a l'individuel, où là, c'est un contre un. Il y a la doublette, deux contre deux. Et puis, il y a un format un peu à part, qui est le format par équipe. Et donc, dans ces trois formats, il y a des classements. Enfin, pour le format par équipe, c'est différent. C'est une seule compétition. Et du coup, on marque des points en individuel et en doublette quand on fait ce genre de tournoi. Donc, il y a deux classements distincts selon le format de jeu.
D'accord. Donc là, à Pernes, vous évoluez dans quelle division? Je peux dire le mot division?
Non, aujourd'hui, il n'y a pas de division encore.
D'accord.
Donc c'est vraiment un système de classement. Donc
un peu comme au tennis, quoi. On est premier, deuxième, troisième, en
c'est
fonction des résultats qu'on a.
Tout à fait. Ben, à Pernes, par exemple, vous avez le champion de comité, William. Vous avez la doublette championne de comité aussi, William et Baptiste.
Ah ouais.
Équipe, cette année, on s'est qualifié pour les masters nationaux. Donc on a joué les finales. Donc qui regroupait les 32 meilleures équipes nationales.
Ah, waouh!
Donc, voilà, c'est vraiment spécifique et en fait, c'est en fonction de chacun, quoi.
Le découpage, il est géographique. Il y a une première échelle qui est le comité avec 4 ou 5 départements, dont le 84, où là, comme le dit Sébastien, on a eu pas mal de succès la saison dernière. Ensuite, au-dessus de cette échelle de comité, il y a l'échelle de la Ligue Sud-Est, où là, il y avait les 4 comités. Où là, il y a beaucoup plus de joueurs et c'est des gros tournois qu'on fait sur un week-end entier avec à peu près 200 joueurs chaque week-end. Et après, il y a le national.
Vous avez un événement chaque année avec le club? Vous organisez un tournoi?
Alors, on est un club qui fait partie des clubs organisateurs. Pas tous les clubs ont la possibilité d'organiser parce qu'il faut avoir une infrastructure. Nous, on a cette chance de disposer de cette infrastructure et des locaux aussi adaptés à Pernes. Chaque année, jusqu'à présent, on a organisé des Open. Et cette année, on a l'organisation de l'Interclub. Donc, c'est les clubs qui vont se rencontrer au niveau du comité, parce qu'on est les champions sortants. Donc, celui qui est champion organise l'année d'après. Et on a aussi le dernier Open de Ligue de la saison, donc en mars, qui va être un événement très, très gros, parce qu'il y a une vraie... une vraie effervescence autour des fléchettes.
Donc à Pernes, là.
Oui, à Pernes.
Le 30 mars ?
Non, c'est le 21-22 de mémoire.
Vous viendrez nous en reparler ?
Oui, avec plaisir.
Ah ouais, super.
Et là, il y aura vraiment la Ligue Sud-Est, il y a quand même beaucoup de joueurs aujourd'hui. On est sur des événements à 250 personnes dans les rien qu'en catégorie individuelle masculin.
250 personnes.
Ouais, ah ouais, plus ça fait plus parce que vous rajoutez les féminines, vous rajoutez les vétérans, vous rajoutez les juniors. Ah ouais. Donc là, ça commence à devenir très très gros. D'ailleurs, en projet, la Ligue Sud-Est va se scinder parce que ça devient trop difficile d'organiser. En fait, on a du mal à subvenir à cette vague de nouveaux clubs, de nouveaux joueurs. Voilà, moi qui suis au niveau du comité, depuis janvier, depuis que c'est télévisé. J'ai pas eu une semaine sans que j'ai pas une personne qui m'appelle pour créer un club dans le comité.
Ah ouais,
c'est affolant.
Et donc pour l'instant tous vos joueurs ils sont autour de des gens autour de Carpentras, de Pernes.
Ouais, ça va même plus loin parce qu'on est le seul club. Il faut rappeler qu'on est fléchettes traditionnelles, hein, donc c'est les pointassiers, parce qu'il existe aussi la fléchette électronique, mais nous on est orienté fléchette traditionnelle. D'accord. Et on est le seul club affilié dans le Vaucluse au niveau de la Fédération française de darts.
Ah d'accord.
Donc les gens qui cherchent un peu,
vous drainez énormément de monde.
Voilà, les gens qui cherchent un peu, ils arrivent chez nous forcément.
Et donc je vous entendais parler de féminine et de masculine, donc j'ai bien compris que ce sport était différencié. Il y a les femmes et les hommes d'un côté. Est-ce qu'il y a des équipes mixtes?
Parce oui.
Oui, voilà.
Oui, oui. Et les féminines, si elles veulent jouer en mixte, elles peuvent.
D'accord, donc équipe soit individuelle homme, individuelle femme, mixte.
En fait, les individuels hommes, on les appelle pas hommes, c'est individuel mixte. Mais le fait est qu'il y a peu de femmes qui s'inscrivent en mixte, et, étant donné qu'elles ont leur catégorie féminine.
Voilà, c'était des histoires, en fait, elles n'étaient pas assez nombreuses, donc on les faisait jouer en mixte, on appelait ça mixte, pour qu'elles fassent plus de matchs, et qu'après elles fassent leur petite, parce qu'elles n'étaient pas assez nombreuses, elles étaient trois au début. Mais aujourd'hui, voilà, ça prend une telle ampleur que du coup, on arrive à différencier les féminines et les masculins.
Ok, bah écoutez, un grand merci d'être venu dans les studios d'RTVFM, l'association Pernolidarts, donc les fléchettes à Pernes. Merci Sébastien Guignon et Baptiste Perron. Avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. C'était passionnant.
Merci à vous pour l'accueil.
Merci beaucoup.
Allez, à tout bientôt. On se retrouve tout de suite après avec vos copains du badminton à Pernes. On vient tout de suite.
La radio de votre tube préféré.
La radio de votre tube préféré.
RTVFM. Mmh. Yeah.
RTVFM.
Avec toi, j'ai essayé d'être honnête pour la première fois. Qui laisse des traces, ce qui ne s'efface pas. Miracle, j'en ai fait plein. J'ai cru que c'était grave, mais c'est rien. De changer, pleurer, se remettre en question. J'ai peur d'écrire ma vie au brouillon. À l'abri des regards, j'essaie parfois de danser dans le noir, d'accepter mon corps sans le voir, sans mon reflet dans la glace. Enfin je me sens à ma place. Dire adieu, j'en ai fait plein. Avec toi, j'ai enfin choisi d'être moi.
Dans tes bras, j'ai plus peur d'être maladroit.
Je t'ai montré mes failles, tu me dis que tu t'en fous.
Avec toi, j'ai enfin choisi d'être moi. J'avais peur que tu t'en ailles, tu m'as dit que j'étais fou.
Dans tes bras, j'ai plus peur.
C'est le moment, c'est le moment.
La pause est terminée. Retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Eh bien, on se retrouve bien évidemment dans Bienvenue au Club. Et nous accueillons tout de suite sur notre antenne Baptiste Boinard, entraîneur du badminton de Pernes. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Alors, tu étais venu il y a une quinzaine de jours déjà présenter un événement qui était le tournoi de Pernes, tournoi de badminton. Hein, donc, allons-y, j'ai besoin de savoir, et les auditeurs attendent ça, comment cet événement s'est-il passé ?
Alors ça s'est très bien passé, donc comme prévu on a eu énormément de monde, plus de 300 joueurs sur les deux jours. Je sais que t'es passé un petit peu dans le gymnase pour
voir... Ouais, je suis venu faire un coucou. Ouais.
Ouais, pour faire un petit coucou pour voir au moins comment, ça se, comment un tel événement se passait. Donc ça a été un véritable succès, énormément de monde, les joueurs ont apprécié l'organisation.
Alors j'ai vu des joueurs et des joueuses d'âges bien différents. Donc oui. Ça couvrait un petit peu...
Oui, oui, ça couvre absolument tous les âges. En fait, dans ce genre de tournoi, on s'inscrit et on est mixé par niveau et non par, par catégorie d'âge. Alors, il existe des tournois...
Ah oui, par niveau.
Oui, d'accord. C'est vraiment par niveau, par classement. Néanmoins, il existe quand même des tournois par catégorie d'âge, comme les tournois jeunes, mais également des tournois pour les vétérans.
Alors, cet événement s'est passé sur les deux jours.
Oui.
Alors, il y a eu forcément des vainqueurs.
Ah, il y a eu beaucoup de vainqueurs, puisque, donc, comme je t'ai dit, par niveau, donc, il y a plusieurs séries par discipline. Donc, il y a plusieurs séries de simple homme, plusieurs séries de simple dame, etc., etc. Donc, plusieurs vainqueurs.
Alors, les vainqueurs, ils repartent avec quoi ? Ce sont des titres honorifiques ? Il y a des récompenses ?
Oui, alors, déjà, il y a le titre honorifique d'avoir remporté c'est le clair. Tournoi, ce qui est quand même déjà un bel accomplissement. Mais en plus, dans ce genre de tournoi, on repart avec des lots pour les vainqueurs donc, qui sont organisés par les événements. Donc, on essaye d'avoir des partenaires, la Ligue, la région, mais également les commerçants.
Ce tournoi de Pernes, c'était pas le premier ?
Non, c'est pas le premier. C'est un petit peu le marqueur de début de saison parce que c'est un des premiers gros tournois de la saison pour les joueurs. C'est pour ça qu'aussi, il a un gros succès, parce que la saison se lance dès le 1er septembre. Et le temps que les licences se prennent en compte, que les joueurs se remettent dedans physiquement, dans le jeu, dans la saison. Et c'est les premiers tournois qui commencent et c'est le premier gros événement de l'année. Donc chaque année, en ce début de saison, il y a le tournoi de Pernes.
Et alors, il existe depuis combien d'années, ce tournoi ?
Oh, il existe depuis de nombreuses années, c'est un petit peu...
Ah oui, d'accord, c'est quelque chose de bien ancré.
C'est quelque chose d'ancré. Il y a des joueurs qui viennent tous les ans, chaque année, au début de la saison, pour faire ce tournoi.
D'accord, pour organiser un tel événement, il faut l'aval de la fédération. Comment ça se passe ?
Alors, en fait, il faut déclarer sur un fichier la date et le tournoi. Et ensuite, la fédération va valider... ou non l'événement. Donc ça se fait plusieurs mois en amont et on déclare le tournoi sur une plateforme et puis la fédération, la ligue, le département vont valider le tournoi et puis après c'est parti. On y a une équipe de bénévoles qui va se former pour tout organiser pour que l'événement se passe au mieux.
Alors vous êtes combien de bénévoles ?
C'est une véritable équipe hein, pour organiser ce genre d'événement parce qu'il y a énormément de choses à faire. Alors comme je t'ai dit, le tournoi, ça fait de nombreuses années qu'il est en place, donc du coup, on a un petit peu quand même des automatismes là-dedans. On se pose moins de questions, on a un fil rouge, on sait comment s'est passé le tournoi de l'année précédente, donc on peut repartir sur cette base. Mais il y a une grosse équipe de bénévoles, il faut vraiment les remercier, parce que c'est grâce à eux que ce genre d'événement puisse se produire.
Alors, imaginons que je veuille m'inscrire au tournoi de l'année 2026.
Oui.
C'est trop tôt
Alors, c'est encore
un peu tôt quand même.
Ouais, c'est encore un petit peu tôt, même si les places sont chères, c'est quand même un petit peu tôt, puisque le tournoi va ouvrir en général au mois de juillet l'année prochaine pour septembre. Donc,
d'accord, voilà. Donc à partir de juillet. Alors,
ce serait
vous avez par rapport au badminton des sites, des référencements,
oui, tout à fait.
Enfin, des habitudes
Exactement, oui. On s'inscrit sur un site en ligne qui est fait pour ça, où il y a tous les tournois en France.
D'accord, c'est pas le site du badminton de Pernes,
non,
hein,
c'est vraiment sur un site.
C'est national quasiment.
Oui, non, mais c'est exactement
c'est
ça, c'est national. Au-dessus, on retrouve toutes les compétitions et on s'inscrit dessus. On sélectionne donc le tournoi, on sélectionne le tableau dans lequel on veut s'inscrire, son partenaire si on fait du double, et puis c'est parti.
Alors, une petite question, je répéterai à personne hein, si jamais c'est pas positif, mais nos petits pernois, nos petites pernoises, ça s'est bien passé ?
Oui, ça va, ça s'est bien passé. ça va. Ça s'est bien passé, puisqu'en plus, le week-end d'avant, on avait eu notre week-end d'interclub de National 3.
Alors,
je sais pas si tu en avais parlé.
Oui.
Et c'est l'équipe 1, donc c'est la première équipe du club, et en plus, ça s'est tellement bien passé qu'on a gagné 7-1.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc on a remporté.
Donc ça veut dire 7 matchs gagnés
sur les 8.
Ah oui, disons, bravo.
Ouais, donc c'est, ah ouais, c'est un bon début de saison.
C'était à domicile ?
Oui, c'était à domicile.
Alors comment ça se passe ? Vous êtes plusieurs équipes au niveau local, au niveau du département. Vous rencontrez tous les 15 jours, tous les mois.
Il y a un calendrier. Il y a un calendrier et là, à nouveau, c'est par niveau, par section. Donc nous, on est en National 3. Au-dessus, il y a la Nationale 2, la Nationale 1 et le Top 12. Donc on est quasiment. On est quand même très bien placé en termes de niveau. Et puis, bah, on tombe dans une poule. Et là, c'est à l'échelle donc, nationale. Donc, on va rencontrer samedi, on va rencontrer Nîmes à domicile. Mais aussi, dans notre poule, on a Andrézieux, Clermont. Donc, vraiment.
Ah oui, vous vous déplacez
loin. On va aller devoir aller jusqu'à Clermont.
D'accord.
Donc, ça fait quand même un bon déplacement.
Alors, une question indiscrète. Allez, comment vous faites pour financer tout ça, les déplacements ? Ça coûte quand même
Oui, ça, c'est quelque chose qui coûte pour le club. Donc, on a la cotisation des adhérents.
Oui, qui est souvent une cotisation qui amène la licence, non ?
Alors, il n'y a pas que, parce que dedans, en fait, quand on va s'inscrire dans le club de Perne, on va payer une licence. Donc ça, c'est la part fédérale que le club reverse automatiquement à la fédération. Donc en fait, on gagne absolument rien dessus, c'est obligatoire. Mais également, après, on a une part dite de cotisation. Et là, c'est pour le coup, on va donner de l'argent pour le club pour qu'il puisse se développer. Donc tout ça, ça permet de rentrer un petit peu d'argent pour le club. Et puis bah, après, on organise des événements. Le tournoi, on a quand même une buvette qui essaye de rapporter un petit peu d'argent dessus, même si c'est faible. Et puis bah, après, on reste une association sportive. Donc, c'est à but non lucratif. Voilà. Donc, le but, c'est quand même de réussir d'avoir un petit peu de fonds pour pouvoir, pour pouvoir me payer à la fin du mois. Parce que je suis salarié à temps plein. À temps plein, donc j'essaye. Faut au moins que j'ai un salaire à la fin
et
du mois.
Et comme partenaire, vous avez qui ? Alors, c'est votre propre financement ?
Non. Après, on a quand même des aides de la mairie. Parce que quand même, le gymnase, il est quand même mis à disposition. Oui. On ne paye rien pour cette infrastructure, après on essaye d'aller chercher des petits sponsors à droite et à gauche pour des événements.
Baptiste Bonnard, on se retrouve dans 2-3 minutes, on s'écoute un petit morceau de musique.
Being a color. We'll be right back.
La pause est terminée. Retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Et youpi, ben on se retrouve à nouveau dans le gymnase de Pernes-les-Fontaines avec Baptiste Boinard, entraîneur du Badminton Club de Pernes-les-Fontaines et toujours en compagnie de Laetitia qui a une petite question pour toi, Baptiste.
Dis-moi, Baptiste, ce sport, enfin, je ne savais pas que c'était un sport d'ailleurs, je pensais que c'était plutôt un jeu de plage. Ce sport, il existe depuis quand ?
Ah, c'est un vrai sport parce qu'il a été inventé par les Anglais en 1873, par là, dans le château de Badminton. Et en plus, ils se sont inspirés du côté des Indiens avec les colonies qu'ils avaient à l'époque. Donc, il y a quand même une origine indienne et les Anglais ont reformulé un petit peu tout ça dans un château en Angleterre. Et non, ce n'est pas un sport de plage. Alors, même si ça peut s'y apparenter qu'on a tous joué sur la plage, c'est quand même un sport olympique. Et oui, depuis longtemps, depuis les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et en 1996 à Atlanta, le double mixte a été intégré. Parce qu'au départ, il y avait juste le simple et les doubles.
Pour jouer au badminton, il faut avoir certaines capacités, il faut avoir certaines qualités physiques ou c'est ouvert à tout le monde?
Alors, moi je dis que c'est ouvert un petit peu quand même à tout le monde. Au club, j'ai des seniors et j'ai pas que des jeunes, hein, et j'ai des personnes qui ont 70 ans et plus. Mais il faut, si on veut faire à très bon niveau, à haut niveau, oui, il va falloir des capacités quand même physiques parce que c'est un sport quand même très cardio, mais sinon, tout le monde peut y jouer au final.
Oui, moi j'en ai vu sauter un peu dans tous les sens quand même. Hein.
Ah, c'est un sport très explosif.
C'est quand même très physique, oui, très
oui,
explosif.
Oui, voilà. Oui, c'est franchement, c'est un sport très très physique au niveau du cœur. Le cœur monte vraiment très haut. Donc, mais tout le monde peut y jouer, au moins tout le monde peut y trouver son compte parce que l'intensité, c'est finalement nous-mêmes qui décidons de la mettre et on la met à notre niveau. Donc on peut adapter en fonction de ses capacités aussi.
D'accord, donc en fait, par rapport à nos capacités, on essaye de voir les faiblesses de l'adversaire et de jouer de façon opportune pour essayer d'aller dans ses travers.
Exactement.
Oh, c'est pas joli tout ça.
Ah, ça reste un sport duel.
Oui, effectivement. Oui. Tu nous parlais de sport olympique. Oui. Qui est champion olympique alors?
Alors, il y a différentes dans les disciplines. Donc, c'est quand même un sport qui est dominé majoritairement par l'Asie. Oui. Au tableau des médailles depuis qu'il est aux Jeux Olympiques, au championnat du monde, le tableau des médailles, c'est la Chine qui est en tête. Mais en simple homme, c'est un Danois parce que le Danemark se situe très bien à l'échelle internationale. Donc, c'est Victor Axelsen. Ah, oui. Mais après, on va avoir aussi la Corée du Sud avec l'actuel numéro 1 mondial Hansi Young. Dans les doubles, là pour le coup c'est vraiment des paires asiatiques, Corée du Sud, Malaisie, Indonésie, Japon également, donc c'est voilà.
Pour jouer au badminton, donc on utilise un volant, voilà, et ce sont des manches en 21 points, c'est ça ? Deux manches gagnantes ou trois manches gagnantes ?
Deux sets gagnants de 21 points.
On dit des sets, oui. Deux sets gagnants.
Okay. Deux sets gagnants de 21 points.
Et alors ce volant, on doit en changer fréquemment, parce que disons, on y tape dessus. Hein.
Ah bah je pense que t'as pu le voir. Donc, ah oui. Déjà, c'est un volant en plume, donc ça va très vite. Le bouchon est en liège et c'est des plumes d'oie ou de canard. Je rappelle que le record du monde de vitesse, c'est 565 km par heure. Donc
incroyable.
Ça va quand même extrêmement vite.
Mais ça met
vite.
Combien de secondes pour arriver de l'autre côté? Ça met...
C'est très rapide.
Un quart de seconde.
Oui, oui, ça va extrêmement. C'est un sport vraiment de vitesse. Donc, mais un volant, bah, comme tu le dis, on va quand même un petit peu le maltraiter si on tape à 565 km/h si le volant part à cette vitesse-là. Donc, on va dire que en fonction de la marque du volant, de sa durabilité et aussi parfois du facteur chance qu'on peut avoir, parce qu'un volant ça coûte cher. Donc, des fois, on va sortir un volant neuf, on va faire un point et on va devoir le changer parce qu'on a cassé les plumes.
Ah, d'accord.
Comme des fois, un volant va durer plus longtemps, puisque on n'aura pas forcément cassé les plumes durant l'échange.
C'est le joueur qui décide de changer le volant ou c'est l'arbitre qui intervient?
Alors, le rôle de l'arbitre. Donc, en gros, on va présenter le volant au joueur en face. On va dire, est-ce que tu veux qu'on change le volant parce qu'il est un petit peu cassé ou tout ça? Et puis, si le joueur accepte, on demande à l'arbitre également de changer.
On revient un petit peu sur le club de Pernes.
Oui.
Je veux y inscrire mes enfants, je veux m'inscrire moi. Je peux venir comme ça en cours de saison?
Alors oui, tu peux venir en cours de saison. Alors il faut savoir qu'on est un petit peu en ce début de saison victime de notre succès, puisqu'on a, c'est très très bien. On a une très bonne dynamique, parce qu'on a énormément déjà d'adhérents. Il faut savoir que tous nos créneaux encadrés sont complets, sauf celui des seniors. Donc, mais par contre, on peut venir sur le jeu libre. C'est la force du badminton.
Des créneaux
c'est
non encadrés.
Exactement, c'est des créneaux non encadrés. On y vient, on peut aller, on peut venir, voilà, jouer. On reste le temps que l'on souhaite. On se mélange avec les personnes qui sont présentes et on fait des, on va sur les terrains, on fait des matchs. Et
c'est voilà. Un peu comme au tennis, je loue un court. Non, il y a quand même des créneaux. Hein, qui
non,
sont, voilà,
non,
il faut
non,
que le club soit ouvert. Et
exactement, il faut que le créneau soit ouvert et on ne, même quand on va, même si tu viens par exemple sur un créneau de jeu dit de jeu libre, tu vas pas avoir ton terrain pour la soirée. C'est-à-dire que tu vas aller sur un terrain qui va être à un moment donné disponible, tu vas y aller avec soit les personnes avec qui tu es venu, soit avec les personnes qui sont déjà présentes dans la salle, tu vas faire un match, puis après tu vas sortir du terrain, les personnes qui étaient en attente vont rentrer, et puis tu vas refaire un match avec un autre terrain qui va se libérer, tu vas peut-être jouer, faire un match avec les d'autres personnes qui sont dans la salle.
Alors ça se passe quand? Parce qu'il y a peut-être des auditeurs, auditrices intéressés là pour venir faire un petit coucou.
Alors ça se passe quand? On a des créneaux du mardi au samedi 13h. Voilà.
Donc okay, on le voit sur votre site.
Exactement. Donc là, si vous êtes intéressé, je vous suggère de faire un petit tour sur le site internet de Badminton Olympique de Perne. Badminton Olympique de Perne, BOP 84. Et puis, vous allez sur le site internet et vous aurez l'ensemble des créneaux qui vous seront présentés. Et puis, venez.
Eh ben super, écoutez, on peut lancer cette invitation à tout le monde, bien évidemment. Baptiste Boinard, un grand merci.
Merci à
donc,
toi.
Donc je répète, entraîneur du Badminton Club de Perne, du BOP, c'est cela.
Exactement.
Voilà. Et merci beaucoup pour toutes ces informations et bonne saison à tous. N'hésite pas à parfois me donner quelques petits résultats que nous donnerons à l'antenne.
Ça marche, c'est noté.
Merci beaucoup.
Merci
plaisir.
À toi.
Une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la toute fin de Bienvenue au Club.
Si j'ai peur, si je laisse-moi. Les larmes sur mon visage, tant pis, laisse-moi. Si notre amour fait naufrage, ça ne changera pas. Le monde autour de moi, alors laisse-moi. Laisse-moi. Si les larmes blessent mon cœur, je t'en prie, laisse-moi. Si j'ai peur, si je tremble, si j'ai froid. Je sais que rien ne changera.
La pause est terminée. Retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Eh bien non, malheureusement,
et
ce
oui.
n'est pas un retour sur le terrain, c'est aller direction les vestiaires. Écoutez, on a passé un très très bon moment, là franchement, c'était la première de Bienvenue au Club sur RTVFM. Ouais. Voilà, ben merci Jean-Pierre pour
de
la
rien,
technique.
Allez, c'est normal, et Laetitia aussi, merci.
Merci à Laetitia.
Merci à Alain.
Voilà, et encore ben merci hein, à Sébastien Guignon et Baptiste Perron qui eux étaient venus pour Pernod, les darts et les fléchettes à Pernes. Nous avions ensuite reçu José Bernal et Baptiste Ferdinand pour le handball club de Carpentras, et puis à l'instant Baptiste Voinard pour le badminton de Pernes. Alors écoutez, c'est une émission qui est prévu un jeudi sur deux, quand il n'y a pas de vacances.
Non,
quand
un mardi, mardi.
Qu'est-ce que j'ai dit, un jeudi?
Oui, mardi.
N'importe quoi, mais oui, un mardi. Ah. Un mardi sur deux. Là, avec les vacances, etc., la prochaine émission aura lieu le 25 novembre.
Et oui.
Voilà, donc je vais partir à la recherche d'associations qui veulent bien venir parler d'elles. Alors, ben, n'hésitez pas, si vous voulez contacter RTVFM pour dire « Coucou, j'ai bien envie de parler de moi, de parler de mon association sportive », ce sera avec plaisir. Écoutez, on vous dit à dans un mois, et
dans
puis
mois,
bah,
ouais,
tout bientôt
tout
sur et nos puis, antennes. Donc.
Bonne fin de soirée, puis voilà.
Bonne fin de soirée à tout le monde, merci à tous.
Et bon appétit pour ceux qui vont passer à table.
Ah ouais, j'y vais.
Je vous laisse à la musique.